Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Clapas 93.5 et sur le net www.radioclapas.fr. Bonjour à tous, bonjour à la technique, bonjour Pierre-Jean. Allegro Vivace, chez l'émission de musique classique Max à l'antenne. Aujourd'hui, nous continuons le faste cycle commencé sur les symphonies de Mahler avec la 7e symphonie, sous-titrée Nachtlied. Je rappelle qu'Allegro Vivace est diffusé le dimanche à midi et le lundi à 20h. Aujourd'hui donc, symphonie numéro 7 en si mineur, sous-titrée Nachtlied, le chant de la nuit. Dans la trilogie constituée par les trois symphonies instrumentales, la 7e constitue un cas particulier, un cas extrême, le point le plus avancé du modernisme de Mahler. Au premier abord, on a peine à y déceler la moindre ligne conductrice, la moindre unité d'intention qui puisse entièrement justifier la réunion de 5 morceaux aussi disparates. Le compositeur qui n'a jamais reculé devant l'excès, atteint ainsi l'extrême point de son évolution avec un premier mouvement qui est le plus moderne de toute son œuvre, avec ensuite un morceau qui mêle toutes les réminiscences et tous les symboles dans son évocation d'un passé romantique, c'est la première Nachtmusik, première musique de nuit, avec le plus démoniaque, le plus terrifiant de tous ses scherzo, et avec aussi la plus faussement innocente de ses idylles symphoniques, c'est la seconde de Nachtmusik, la seconde musique de nuit, et enfin avec le plus dément, le plus dévié, le plus fêlé, le plus provocant de tous ses finales. Si la 7e symphonie est moins unitaire que les autres, c'est peut-être parce que les mouvements secondaires, les deux Nachtmusiken, ont été écrits avant les trois autres. En 1904, Mahler s'est donné pour tâche d'achever pendant l'été la 6e symphonie, mais comme cela lui est déjà arrivé si souvent en quittant Vienne et son activité d'interprète, de chef d'orchestre, il s'est torturé pendant plusieurs jours avant de trouver l'inspiration nécessaire. Désespérant de lui-même et de son destin de créateur, il a, comme d'habitude, en pareil cas, quitter sa table de travail pour faire une excursion dans le Tyrol du Sud, à Toblach, d'où il a pris la route qui monte au lac de Misurina. C'est là peut-être, tandis qu'il cherche vainement l'inspiration pour son final, que lui sont venus à l'esprit les thèmes des mouvements nocturnes parmi les idées parasites qu'il a l'habitude de noter aussitôt dans un carnet lorsqu'elles ne s'insèrent pas dans l'œuvre en chantier. Nous n'en savons pas plus sur le travail de cet été, sinon qu'à la fin du mois d'août, il aura achevé non seulement la 6e symphonie, mais aussi l'esquisse complète des deux Nachtmusiken. Notons au passage qu'il s'agit d'un phénomène unique dans sa vie créatrice. Jamais auparavant, on ne l'avait vu travailler simultanément sur deux ouvrages aussi différents. Un an plus tard, en 1905, Mahler gagne Meyernich après une autre saison épuisante à l'Opéra de Vienne. Et de nouveau, il va se torturer pendant 10 jours, du 15 au 25 juin, sans trouver l'inspiration nécessaire aux autres mouvements de son ouvrage, surtout au premier. Une nouvelle excursion dans le Tyrol du Sud lui paraît s'imposer, et pendant 2h30, il y fait au pas de course le tour d'un lac de région. Il est d'humeur exécrable, non seulement à cause de la migraine qui ne le quitte pas, mais parce que c'est la fête de Dieu et que l'auberge où il s'est installé est pleine à craquer et terriblement bruyante. Pour une fois, les fabuleux paysages n'arrivent pas à le tirer de son marasme. « Comme tu dois en t'en souvenir, écrira-t-il plus tard à Alma, je me suis torturé jusqu'à la folie, jusqu'à mon excursion dans les Dolomites. Même torture là-bas, si bien que je me suis décidé à tout abandonner et à repartir convaincu que tout l'été était perdu. À Krumpendorf, où tu ne m'attendais pas, car je ne t'avais pas prévenu de mon arrivée, je suis monté en bateau pour traverser le lac. Dès le premier coup de rame, l'idée m'est venue du thème, ou plutôt du rythme de l'atmosphère de l'introduction du premier mouvement. En 4 semaines, les premiers, troisième et cinquième mouvements étaient entièrement terminés. Ça, c'est du Mahler. Ça, c'est du vrai Mahler. C'est comme ça que Mahler composait. À l'inspiration, au travail, dans la douleur. Dans cette précieuse lettre de juin 1910, Mahler a voulu rappeler à son épouse son incapacité d'écrire de la musique sur commande. En 1905, et pour ce qui est de la 7e symphonie, la rame magique du Batelli a donc mis fin à sa malédiction annuelle. Dès le 15 août, il pourra écrire en latin à son ami Guido Adler pour lui annoncer l'achèvement de la 7e et fera de même 4 jours plus tard une carte à Richard Strauss. Pour ce qui est de l'édition de sa création, il déclare qu'il attendra aussi longtemps qu'il le faudra, mais il faut bien reconnaître que cette patience lui a été imposée par les événements. En effet, la première audition de la 6e a été moins bien accueillie encore que celle de la 5e, de sorte qu'à quelques semaines de la création de la 7e, prévue pour le mois de septembre 1908, Mahler se trouve sans éditeur. Il faut donc se résigner à faire copier à ses frais le matériel d'orchestre et à entreprendre des démarches bien humiliantes pour un compositeur de son âge et de sa notoriété. La petite firme de Leipzig, Lauterbach et Kuhn, qui sera bientôt rachetée par l'éditeur berlinois Bott & Bock, finira enfin par accepter sa proposition et la partition sera publiée dans le courant de 1910. Le choix de Prague et le cadre agité d'une exposition célébrant le jubilé de l'empereur étaient peut-être hasardeux pour la première audition de sa nouvelle symphonie. Mais malheur n'aura pas à le regretter à cause du zèle des membres de l'orchestre et de l'enthousiasme inépuisable des musiciens tchèques et allemands réunis à Prague pour l'occasion. On lui a d'ailleurs accordé près de 2 semaines de répétition qui n'eût certes pas obtenu ailleurs. Le souvenir de ces journées de travail ne quittera jamais les nombreux amis et disciples qui l'entourent. On pense à Bruno Walter, le futur grand chef d'orchestre, Arthur Bodansky, autre qu'empereur, autre futur grand chef d'orchestre, Ossip Gavrilovitch et aussi Alexander Zemlinsky, compositeur et professeur de piano de la jeune Alma Mahler. Alban Berg aussi est là, l'élève de Mahler, Oskar Skrit, futur grand chef d'orchestre, et Klaus Prinzheim, compositeur. La plupart s'accordent à reconnaître que l'atmosphère des répétitions fut harmonieuse, mais que la 7e a été applaudie le soir de la première avec plus de respect que de chaleur. À quelques exceptions près, la presse tchèque, comme ensuite la presse autrichienne, s'exprime en généralité courtoise, mais qui dissimule mal son manque d'enthousiasme. Bien sûr, on accuse plus Mahler d'impuissance créatrice, mais on s'étonne tout de même de trouver tant de banalités et de matériaux d'origine populaire dans une œuvre aussi sérieuse. Dans l'ensemble, la sérénade suscite quelques commentaires plus admiratifs. La 7e met à bien des années avant d'être vraiment acceptée. Et là, la symphonie qui a été le plus tardivement enregistrée en studio en 1953, et elle reste aujourd'hui encore la moins populaire des symphonies de Gustav Mahler. Vous êtes sur Radio Clapas 93.5. Le premier mouvement, Scherzo, langsam, allegro risolotto, ma non troppo, en si mineur. L'introduction crée d'emblée un climat d'obscurité et de mystère. 3 volets s'y succèdent, la marche initiale d'une grandeur presque funèbre, une autre marche plus allante et plus légère, qui jouera un rôle essentiel dans l'allegro, vent soutenu par des pizzicati de cordes. Et enfin, une reprise considérablement modifiée du début, introduite par une version nouvelle du thème initial au trombone. Le solo instrumental qui ouvre la symphonie est confié au ténor Horn, en français baryton en si bémol, instrument doué d'une sonorité troublante et pénétrante. Un sentiment d'instabilité et de malaise y provient d'emblée l'utilisation d'un intervalle rare, la quinte diminuée et de l'accentuation du thème dans lequel, par 2 fois, le temps fort tombe, pour ainsi dire, dans le vide sur une note tenue. Quant au rythme fatidique d'accompagnement, il a été suggéré à Mahler par celui des rames du bateau sur le Wörthersee. Mais il rappelle également l'un des épisodes les plus célèbres de l'opéra verdien, le Miserere du Trouvère. D'après Mengelberg, chef d'orchestre et grand défenseur de Mahler, cette introduction dépeint la nuit, les forces de l'ombre contre lesquelles va lutter l'ardeur conquérante du premier thème. Le moins qu'on puisse dire est que cette ardeur conquérante a le souffle court. En effet, les épisodes lyriques et le second thème en particulier, ils sont si nombreux et si étendus qu'on a finalement l'impression de se trouver non pas devant un allegro symphonique, mais devant un mouvement lent, coupé de parenthèses rapides. Étroitement apparenté à celui de l'introduction, le thème initial de l'allegro doit son caractère volontairement et quelque peu contrefait à ses nombreuses successions de cartes mélodiques qui prévoient celles de la Kammersymphonie de Schoenberg et annoncent l'ébranlement futur du système tonal qu'on retrouvera dans la 10e symphonie inachevée. Quant au second thème, en ut majeur, c'est une longue mélodie extatique encore apparentée à l'univers des Kinder Total Lieder et à l'andante de la 6e, mais appartenant à cette grande famille de thèmes ascendants qui, à travers toute œuvre de Mahler, symbolise son optimisme métaphysique. La petite marche de l'introduction s'amène dans la transition avec le développement et après une reprise variée du thème conquérant, celui-ci se laisse peu à peu gagner par le lyrisme expansif du second élément. Le tempo s'accélère pour céder à nouveau cette fois pour une longue page d'immobilité rêveuse où le motif de chorale, corps des bois graves, n'est autre qu'une nouvelle métamorphose du premier. Des voix d'oiseaux et des fanfares lointaines lui répondent. Ensuite, le second thème, dans un nouveau moment d'extase, ramène le tempo et le rythme de l'introduction dans lequel il ne tarde pas à reparaître lui-même. Étant donné le rôle capital que ce second thème a joué dans le développement, on pourrait s'attendre à le voir banni de la réexposition, mais il n'en est rien. Il y a au contraire à de nouveaux sommets de lyrisme et s'élève dans l'aigu jusqu'à des hauteurs vertigineuses. Nous allons écouter le début de ce premier mouvement de la 7e symphonie de Mahler. C'est Ricardo Chailly qui dirige le Gewandhausorchestra de Leipzig. Thank you. Second mouvement, le Nachtmusik. C'est un allegro moderato, molto moderato andante, en lutte majeure mineure. Après une introduction légèrement plus rapide, le mouvement proprement dit préserve une stabilité de tempo très rare chez Mahler. L'effet de spatialisation obtenu à l'aide des deux corps, dont le second doit être joué avec sourdine, fait écho au dialogue des deux bois au début de la scène au chant. De la symphonie fantastique de Berlioz, quant à l'accord majeur qui devient mineur, c'est une simple citation du leitmotiv harmonique de la symphonie précédente, mais ici privée de sa signification pessimiste, car le climat d'ensemble de cette Nachtmusik n'a rien de tragique, en dépit du rythme fatidique de marche qui rappelle les Wunderhorn Lieder de l'époque hambourgeoise et du motif dactylique et militaire, violon en col legno issu de Revelje. Deux épisodes alternent, les premiers aux cordes avec imitation aux cordes graves et le second aux basses. Comme le premier mouvement, celui-ci comprend des épisodes immobiles avec des fanfares et des chants d'oiseaux auxquels se mêlent ici et là les cloches de vaches de la symphonie précédente. Mahler le prescrit, des effets d'éloignement plus ou moins marqués. On finit d'ailleurs par être troublé par cette abondance d'éléments symboliques empruntés à des univers totalement différents. La mélodie du premier trio, violoncelle, avec son accompagnement à l'accord de triolet pour cuivre, est l'une des plus isolamment plébéiennes de Mahler, mais un examen plus approfondi révèle bien des asymétries et des subtilités de tous ordres. Dans le second trio, Poco meno mosso, le tendre duo de hautbois paraît annoncer un changement total d'atmosphère, mais le rythme de marche y reprend le dessus au bout de quelques mesures. L'édifice est harmonieusement complété par le retour, librement élaboré, des deux épisodes centraux. On va écouter maintenant le second mouvement, la fin du second mouvement de cette 7e symphonie de Mahler, et c'est Pierre Boulez qui dirige le Chicago Symphony Orchestra. Nous allons entendre la fin du second mouvement de la 7e symphonie de Mahler, et c'est Pierre Boulez qui dirigeait le Chicago Symphony Orchestra. Le troisième mouvement, Scherzo, Schattenhaft, fantomatique en français, en ré mineur. Un sentiment d'inquiétude s'impose aussitôt à cause de l'étrange instabilité rythmique du début, coup de timbale du troisième temps, faible, et pizzicati des contrebasses non accentuées sur le temps fort. Une ronde presque mécanique de triolets tournois dans le vide glaçant, presque sans harmonie accompagnante. Un épisode de valse éclaircit un instant l'atmosphère, mais sa grâce initiale dégénère bientôt en sauvage jouissance populaire. La nuit de sabbat berliozienne n'est pas loin. Le rythme ternaire est lourdement et presque brutalement scandé par les cuivres. Dans le trio, le chant lyrique et quelque peu plaintif de la flûte et du hautbois paraît rétablir un calme que les parenthèses de croches rapides détruisent presque aussitôt. Donc écoutez le final de ce troisième mouvement de la 7e symphonie de Mahler, et c'est Maris Jansson qui dirige l'orchestre philharmonique d'Oslo. Thank you. entendre le final du troisième mouvement de la 7e symphonie de Mahler, Marie Janson dirigeait l'orchestre philharmonique d'Oslo. Quatrième mouvement, Nachtmusik, Andante amoroso en fa majeur. C'est à dessein que Mahler a donné à cette seconde Nachtmusik un rôle essentiel non seulement à la harpe, mais aussi à la guitare et à la mandoline, instrument aux sonorités grêles et tout à fait insolites dans le contexte symphonique. Il ne l'a pas intitulé sérénade, mais l'indication amoroso, la présence insistante de ses cordes pincées et la régularité du rythme lui donnent ce caractère amoroso et de sérénade. On comprend sans peine que Schoenberg ait été fasciné par ce morceau énigmatique au point de reprendre la guitare de Mahler dans sa propre sérénade. Avant la kermesse finale, ce mouvement joue un rôle analogue à celui de l'adagietto de la 5e symphonie, mais il s'agit cette fois non pas d'un simple lead orchestral, mais bel et bien d'un mouvement lent dont le climat ne rappelle en rien celui du morceau célèbre de la 5e symphonie. De par son ambiguïté, sa fausse innocence, son climat de nostalgie comme distancié, de par son absence de subjectivité même, il ne ressemble à aucun autre morceau de l'œuvre de Mahler. Les premières mesures y font office d'introduction, comme si le donneur de sérénade préludait sur son instrument. Le même refrain obsessif s'interposera bientôt entre chaque épisode, donnant à la forme un air de simplicité et d'évidence que tout dément par ailleurs. Le ton, le climat reste impersonnel et profondément ambigu, et l'ensemble échappe à toute définition. Quelques brefs passages laissent affleurer une émotion plus subjective, mais ils sont chaque fois interrompus par le retour du rythme symétrique et des motifs d'accompagnement à l'ancienne. Vous écoutez la fin de ce quatrième mouvement de la 7e symphonie de Mahler, et c'est Gustavo Dudamel qui dirige le Los Angeles Philharmonic Orchestra. C'était le final du quatrième mouvement de la septième symphonie de Gustav Mahler. Gustavo Dudamel dirigeait le Los Angeles Philharmonic Orchestra. Le cinquième mouvement, rondo final, en ut majeur, nous avons donc ici le morceau le plus surprenant, le plus insolite, le plus déconcertant et en tout cas le plus impopulaire de Mahler. Celui-ci affirme avoir voulu dépeindre la pleine lumière du jour et le soleil éclatant de midi, mais comme dans le final de la cinquième symphonie, un voile d'ironie transforme sans cesse la réjouissance en dérision. Ainsi, ce final fascinera-t-il toujours comme une sorte de monstre, non pas à cause de ses explosions de joie factice, mais de ses paradoxes, de ses grimaces, de ses volte-face et de son néoclassicisme caricatural. Le premier élément thématique est exposé par l'instrument, le moins mélodique de tous, c'est-à-dire la timbale. Et cela dans une tonalité qui n'est même pas celle du morceau, puisqu'il s'agit de mi mineur. Quant au thème principal, il affiche aussitôt son origine à l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg. Cependant, à l'intérieur même de ce vacarme de kermesse, il se produit toutes sortes d'événements bizarres, notamment l'apparition de formules tonales et de fanfares vidées de leur sens originel et qui n'arrivent à rien sinon l'impossibilité de se réjouir franchement. Après une entrée en matière aussi exubérante, on s'attendrait à voir le rondo poursuivre sur le même ton. Au lieu de tout cela, une brutale rupture de ton et de tonalité introduit une curieuse rengaine à la bémol dans laquelle on a vu une allusion à la valse célèbre de la Veuve Joyeuse de Franz Lehár. Ces deux épisodes fortement contrastés seront bientôt suivis d'un troisième, une sorte de menuet parodique peuplé de formules à l'ancienne mode et de contrepoints désuets. Sa fausse innocence n'a rien à faire dans un tel contexte et confirme l'équivoque créé par Wagner, justement dans les Meistersinger, entre savant et comique. On trouve ici l'humour fantasque, l'ironie et la dérision de E.T.A. Hoffmann. On n'en finirait pas de décrire le plus provocant de tous les morceaux de Mahler, ni l'immense kaléidoscope de développement dans lesquels les motifs sont inlassablement concassés, déformés, transformés et brassés. Sans cesse, on se demande si l'on doit écouter au premier ou au second degré. Le plus frappant est la discontinuité dans laquelle Mahler paraissait de façon complète, la brutalité des ruptures et cette polyphonie de style et de climat qui semble être en fin de compte la raison d'être essentielle du morceau. En tout cas, le retour à la fin du rondo du thème conquérant de l'allegro initial n'a nullement l'air de consommer le triomphe définitif d'un quelconque héros symphonique. Pour pénétrer la signification de ces pages énigmatiques, il faut peut-être se référer à des musiques plus récentes dans lesquelles la citation, le second degré, la référence ambiguë au passé constitue le propos principal. À mon avis, il faut écouter le final de la septième symphonie comme s'il s'agissait d'une nouvelle musique, en tout cas d'une musique consciente avant la lettre du malaise de notre époque. La formule utilisée par Mahler lui-même pour définir l'humeur de son mouvement, « Was kostet die Welt », après tout, tout s'achète, ne rend pas compte de son ironie féroce, de sa fêlure, de ses sourires empruntés, de sa feinte d'innocence, ni de ses développements touffus et de sa complexité presque vertigineuse. N'est-ce pas finalement le triomphe de l'Alltags, son grand ennemi de toujours, que Mahler célèbre ici? Car sans doute la réjouissance bascule dans la parodie, le ciel touche à l'enfer, le jour à la nuit, la joie au désespoir, le rire à la grimace, l'encens au soufre, le tédéum au carnaval, l'or au plomb. Et malgré tout, malgré ces ruptures, ces défis, ces provocations, et peut-être même à cause d'eux, on acquit au fil des pages la conviction que Mahler n'a jamais été rien composé de plus original ni de plus prophétique que ce rondo mal aimé. Vous écoutez le final, donc le cinquième mouvement de cette septième symphonie de Gustav Mahler, c'est Andris Nelson qui dirige l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. We'll be right back. Nous avons entendu le final de la symphonie numéro 7 de Mahler, donc le cinquième mouvement. Andris Delson dirigeait l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Je rappelle que les choix d'interprètes que j'ai faits sont très objectifs. S'il y a de grands interprètes de Gustav Mahler, certains chefs moins célèbres se révèlent aussi avec Mahler. Ce fut le cas du regretté Klaus Tennstedt, qui fut un fantastique mahlérien. Et puis il faut bien dire aussi que chacun d'entre nous porte en lui sa vision de Gustav Mahler, son Gustav Mahler. Ainsi se termine donc cette émission consacrée à la 7e symphonie de Gustav Mahler. La prochaine émission sera consacrée aux différents festivals de cet été de la région, je pense au Festival de Radio France, au Corum et ailleurs dans la région, au petit festival magnifique de Tresques. Et ensuite, nous parlerons de la 8e symphonie de Gustav Mahler. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Teclapas, 93.5, www.teclapas.fr. Max à l'antenne, merci à tous, à la semaine prochaine. Thank you.